Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de Sporama de ce lundi 11 novembre, les éliminatoires pour la prochaine CAN Maroc 2025, la Ligue des champions féminines CAF, les candidatures à la présidence de la CAF, les blessures à répétition des joueurs, mais aussi une fenêtre sur la Basketball Africa League. On connaît les deux premiers qualifiés sur terrain. Avec nous, comme d'habitude, Élisée Nkpatin depuis Boyoukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci, Jules Valentin Ngoué nous rejoint depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir. Nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Bien évidemment, merci Amdine Sy. Amine Birouk va intervenir de temps à autre dans cette émission de Sporama. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. C'est la dernière ligne droite pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Avec les deux derniers matchs des éliminatoires, le sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, a annoncé hier sa liste de 26 joueurs pour affronter la Namibie et le Zimbabwe. Les Lions Indomptables sont déjà qualifiés. Jules, l'enjeu serait surtout de bien se positionner au classement.
Oui, bien sûr. L'enjeu, c'est d'abord de bien se positionner au classement, soigner bien sûr le classement FIFA, parce que lors de la phase finale, il sera question de chercher à être tête de série pour éviter les mauvaises rencontres. Et en même temps, l'équipe camerounaise, qui a flotté pendant assez longtemps parce que son effectif était incomplet, a suffisamment le temps maintenant de se reconstruire. Je crois que c'est pour ça que l'entraîneur met beaucoup d'importance sur ces deux matchs.
Bien évidemment, beaucoup d'importance sur ces deux matchs. Le pays hôte, le Maroc, lui, aura des rencontres test, dont un choc face au Gabon. On va écouter Amine Birouk, justement, qui nous parle de cette équipe du Maroc.
Le Maroc, il y aura deux tests. Le plus sérieux aura lieu vendredi prochain à Franceville, au Gabon. Et pour cette dernière fenêtre FIFA, 26 joueurs ont été convoqués. Un sera déjà forfait après sa grave blessure. Il s'agit du joueur de Villarreal, Ilias Achomech, out pour toute la saison après avoir marqué un but contre l'équipe d'Alavés. Le joueur marocain s'est gravement blessé. Bon, la liste, somme toute, est conforme à la logique, avec le manque de jeu de Hakim Ziyech qui le condamne à rester à quai et de ne pas être convoqué par Walid El Guelaghi. Le retour de Brahim Diaz après avoir déclarer forfait lors de la précédente date FIFA à cause d'une blessure. Et puis quelques revenants qui n'étaient plus dans les papiers de Walid El Guelaghi. Je pense en particulier au latéral gauche de l'équipe de l'Ali d'Égypte, l'ex-Wydad de Casablanca, Yahya Atiatullah. Il avait été absent en septembre et en octobre, mais les bonnes performances avec son club, vainqueur de la Supercoupe d'Égypte et de la Coupe afro-asiatique contre l'équipe de l'Ain Emirat des Émirats, dans le cadre de cette Coupe intercontinentale, ont fait que Walid El Guelaghi a pensé à lui. Idem pour Adam Massina, lui n'avait plus disputé la moindre rencontre avec le Maroc depuis juin 2023. Il était venu jouer les intérimaires de service après une cascade de blessures. Massina qui a fait toutes les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, mais qui n'est pas allé en Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est reconverti en stopper dans une défense à trois en Italie et il semble peut-être être la solution pour un axe central un peu défaillant du côté marocain depuis la mise à l'écart ou la méforme de Romain Saïs. On l'attendait, mais il n'est pas dans cette liste. C'est bien sûr le capitaine de l'équipe du Maroc. Et puis tout le reste est conforme à la logique, sachant que par exemple, lors du premier match, Rahimi ne sera pas de la partie puisqu'il a accumulé deux cartons jaunes. Et Walid El Guelaghi le réservera pour le deuxième match face au Lesotho. Et on verra une concurrence, par exemple, à la pointe de l'attaque entre les deux strikers en forme du moment, le joueur de l'Olympiakos Eyüp Kabi et son homologue de Fenerbahçe en Turquie, Youssef Nseri.
Alors, Jules, c'est un match test pour le Maroc, mais une rencontre quand même décisive pour les Panthères gabonaises.
Oui, bien sûr. Ça, c'est le match peut-être le plus important pour le Gabon pendant ces éliminatoires, parce que déjà, il a été servi par les performances du Maroc pour un peu éliminer les adversaires indirectement. Mais là, face au Maroc, ici, à ce stade de la compétition, il faut au Gabon au moins un match nul pour faire une dernière rencontre sans trop de pression. Alors, pour cela, donc, les Gabonais, qui, et curieusement, dans le passé, ont l'habitude de gêner souvent les Marocains, le plus souvent, on voit le Maroc qui domine, et à la fin de la rencontre, le score ne reflète pas toujours l'opposition qu'on avait sur le terrain. Donc, les Gabonais vont venir chercher crânement le nul, sûrement. Ils vont fermer le jeu, et ils ont des attaquants qui savent sortir, et je crois qu'ils vont jouer leur chance et chercher à accrocher au moins un match nul pour que le dernier match contre la RCA ne soit pas pénible.
Bien évidemment, eux ne sont plus à la recherche de matchs nuls, mais plutôt de victoires. Élisée, il s'agit des Guépards qui ne sont pas encore qualifiés. Il faut le dire simplement, ça passe ou ça casse pour Guinée Trois et ses poulets.
Et bien évidemment, ça passe ou ça casse, puisque les deux prochaines rencontres sont décisives, vous l'avez dit. Il faudra tout d'abord battre la bête noire, et c'est bien sûr le Nigeria, en plusieurs confrontations. Eh bien, avant, le Bénin n'avait jamais battu les Super Eagles, mais depuis un bon moment, eh bien, les Béninois ont rompu avec cette contre-performance. Eh bien, les Béninois les avaient battus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il faudra refaire cette performance. Ce sera très très difficile, puisque dès l'entame de ces éliminatoires, eh bien, les écureuils se sont écroulés tout simplement du côté du Nigeria. 3-0, on se rappelle de cette première journée. Donc il faudrait vite réagir afin de prendre les 3 points, puis aller chercher une autre victoire du côté de Tripoli contre la Libye pour éviter tout calcul, puisque les Béninois comptent un point de plus que les Rwandais qui vont jouer les Libyens à domicile. Vous imaginez, donc si le Rwanda l'emporte et que le Bénin n'arrive pas à battre le Nigeria, cette qualification est tout simplement compromise, et donc ça fera une 3 cannes de suite que le Bénin ne participera pas. Donc pour tout éviter, il faudra simplement battre et le Nigeria et la Libye, et ce sera le 18 novembre prochain.
Alors Amdine Sy, seul enjeu dans le groupe L, celui du Sénégal et du Burkina Faso, la lutte pour la première place, les deux sont à égalité de points, 10 points chacun.
Tout à fait, Yacouba, c'est la finale de ce groupe L entre Sénégal et Burkinabé. Il faut dire que c'est vrai un match sans enjeu, puisqu'ils ont déjà qualifié, mais un match extrêmement important pour les deux équipes. Comme vous le savez, l'objectif, c'est de prendre la première place. La première place est présentement occupée par le Burkina, qui est en pole position, puisque les Étalons avaient tenu en échec les Lions de la Teranga au stade Abdoulaye Wade sur le score de 2-2. D'ailleurs, ce nul a emporté un peu à l'UCC. C'est parce qu'après ce nul, on a limogé à l'UCC, d'où l'importance de ce match. D'ailleurs, le coach intérimaire Pape Thiaw est en train de préparer ce match très au sérieux, puisque lorsqu'il a effectué quand même la convocation pour les jours, pour ce match, il a carrément mis l'accent sur les cadrans que Aliou Cissé avait l'habitude d'appeler, les Sadio Mané, les Kalidou Koulibaly. Mais il y a aussi le retour de Edouard Mendy qui était absent, et un certain Crépin Diatta qui n'a plus joué avec l'équipe nationale du Sénégal depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Sénégal est en train de se préparer au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade. Ils vont effectuer le déplacement mercredi sur Bamako pour pouvoir affronter le Burkina vendredi. C'est un match important, et les confrontations entre Sénégal et Burkinabé ont été toujours épiques, et je pense que celui-ci ne va pas déroger à la règle. En tout cas, on s'attend à un match très disputé entre Étalon et Lyon du Sénégal, Yacouba.
Pour rappel, les 8 qualifiés à l'issue de la 4e journée sont le Maroc, pays hôte donc, la RDC, l'Angola, l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, le Burkina Faso et le Cameroun. Il reste encore 16 places à prendre pour la phase finale prévue en décembre 2025 et janvier 2026. Autre actualité sportive sur le continent, la Ligue des champions féminines de la CAF qui a débuté vendredi dernier au Maroc. On fait le point tout de suite avec Amine Birouk sur place.
Des confirmations et une surprise monumentale. On va commencer peut-être par la surprise. C'est la victoire des Égyptiennes de Massar, club nouvellement créé dans le football égyptien. C'est la succession logique du FC Toutankhamon qui avait disputé le tour préliminaire ou la coupe de l'UNAF et qui avait été battu par l'AS FAR. Cette équipe égyptienne a dominé le tenant du titre de Mamelodi Sundowns sur le score de 1-0 au cours d'un match très équilibré où les Égyptiennes ont su faire le dos rond avant de profiter d'une erreur et de marquer un pénalty qui leur permet de prendre 3 précieux points. Cette rencontre qui a eu lieu hier venait ouvrir une journée où la logique a été, somme toute, prédominante avec la victoire lors du deuxième match des Nigériennes de Dido Queen sur le score de 3-0 face aux malheureuses Éthiopiennes de Commercial Bank. La veille, l'AS FAR qui a remporté le titre en 2022 et qui a été deux autres fois sur le podium en 2020 et en 2023, pays organisateur, club organisateur, l'équipe militaire marocaine a battu les Sénégalaises des Elbes de la Médina 3-0. L'addition aurait pu être beaucoup plus lourde si Aziz Elbeh avait transformé un pénalty, si les joueuses marocaines avaient aussi réussi à convertir quelques-unes des occasions qu'elles se sont créées en cours de rencontre. Il faudrait également saluer la victoire des Congolaise du TP Mazembe, 2-0 face aux deuxièmes représentantes sud-africaines, Cape Town, lors d'un match à sens unique. Donc c'est déjà une tendance qui se dégage avec dans le groupe A, l'AS FAR et le TP Mazembe qui devraient en découdre demain et qui semblent au-dessus du lot. Et dans l'autre groupe, après cet échec des Mamelodi Sundowns, est-ce que les Sud-Africaines auront l'opportunité de reprendre le dessus dans cette configuration, dans cette poule? Déjà le deuxième match sera un match couperé pour les tenants du titre. Et il faut dire aussi qu'il y aura également de belles empoignades avec un match à 3 a priori entre Mamelodi Sundowns qui n'a pas dit son dernier mot, les Égyptiennes de Massar qui sont l'outsider de ce groupe et les Nigériens des Dido Queens qui ont confirmé les belles prédispositions et surtout la place prédominante du football féminin au Nigeria.
Alors Élisée Mpatin, on a entendu Amine émettre quelques doutes à propos des Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Elles doivent, mais elles peuvent se reprendre toujours.
Puisque pour se reprendre, eh bien, il faudra tout simplement battre les Éthiopiens de Commercial Bank. Ils sont tout simplement en apprentissage, il faut le dire, puisque quand on prend un peu leur niveau, leur première sortie, ça s'est mal passé contre les Nigériens du Dokunz, qui pourraient quand même rapporter ce match sur un loose score, même si à la fin, ça s'est soldé sur un score de 3-0. Eh bien, les Sud-Africaines ont la chance de se relancer. En tout cas, en football, ça va très vite. Donc, sur papier, les Sud-Africaines partent favorites. Donc, c'est dire que sur le terrain, on peut assister à autre chose. Que c'est ce qu'on a vu lors de la première journée, lors de cette défaite inaugurale contre le club égyptien de FC Massa. Donc, les Sud-Africaines doivent beaucoup se méfier et bien négocier cette rencontre-là afin de se lancer. Puisque au soir de la troisième et dernière journée, eh bien, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Donc, elles ont intérêt à bien se ressaisir afin de poursuivre cette compétition. Pourquoi pas ne pas garder le trophée.
Elles aussi ont intérêt, bien sûr, à se reprendre. Il s'agit des Sénégalaises, des Aigles de la Médina. Amdinsi, battu 3-0 par le club Hauts l'AS FAR du Maroc.
Tout à fait. Mais il faut comprendre que c'est la première participation de ce club sénégalais. Je vous parle des Aigles de la Médina. Ils ont été laminés par les FAR, comme l'a dit tantôt Amine Birouk, par 3-0. Le score pouvait être encore plus sévère, mais heureusement qu'elles sont gérées parce qu'elles ont encaissé 3 buts durant la première période. Donc ce sera extrêmement difficile. En tout cas, l'apprentissage sera très difficile pour ces Aigles de la Médina. Mais c'est comme ça en football, il faut essayer d'apprendre des échecs pour pouvoir rebondir. Et je pense que les Aigles le feront, Yacouba.
On l'espère bien pour les Sénégalaises. Les filles militaires du Rabat partagent la tête de la poule B avec les Congolaises du tout-puissant Mazembe, tombeuses 2-0 des Sud-Africaines, les autres Sud-Africaines de Cape University of Western. Jules, c'est une belle performance tout simplement pour le TP Mazembe.
Oui, une belle performance, mais elle était attendue dans la mesure où, dans la zone Afrique centrale, il y a un retour, disons que, d'importance accordée au football féminin, comme on a pu le voir pour les U20 à la Coupe du Monde. Alors, les trois pôles sont normalement la RDC, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et je crois que le tout-puissant Mazembe a montré son expertise au niveau des garçons. Et c'est la même chose chez les filles, qui sont très professionnelles, qui sont bien encadrées et qui sont pas venues pour le tourisme. Et quand on voit comment se sont déroulées et leurs rencontres, enfin surtout la rencontre clé contre quand même une équipe sud-africaine, et on voit qu'il y a eu beaucoup de concentration, beaucoup de métier et beaucoup de patience pour amener une victoire et finalement qui est venu au plus fort, celui qui a mieux joué pendant la rencontre. Je crois que c'est un bon départ et je crois que le tout-puissant Mazembe peut passer le cap suivant.
Hors des terrains, le dépôt des candidatures pour la présidence de la CAF et le conseil de la FIFA se referme cette nuit avant l'élection prévue pour mars 2025. Amine Birouk entend vers une candidature unique de l'actuel président Patrice Motsepe.
Le deadline, c'est dans quelques heures, plus exactement à minuit, et la tendance se dégage pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Ce sera Patrice Motsepe. On pensait que l'Égyptien Hani Bourida, vu le changement de réglementation, pouvait se présenter, ce qui n'avait pas les garanties nécessaires, ce qu'il a jugé que le rapport de force était en faveur de Patrice Motsepe, ou est-ce qu'il y a eu consensus autour du nom du président sortant. Il y aura également de multiples candidatures pour le comité exécutif et la lutte bat son plein, par exemple, dans la zone UNAF, puisque si Fawzi El-Qja et Hani Bourida se présentent pour le conseil de la FIFA et sont élus, ils seront automatiquement présents au comité exécutif. Le Libyen Chelmani a gagné sa place lors du dernier congrès électif à Abidjan il y a 2 ans, donc il est à mi-mandat. Il reste une place pour l'Afrique du Nord, c'est la place laissée vacante par l'ex-président de la fédération tunisienne actuellement incarcéré. La Tunisie a un comité de normalisation et l'Algérie voit une autoroute ouverte avec Walid Saadi. Sauf que la Tunisie a décidé de réagir en présentant Jnieh, qui est un membre du comité de normalisation, et ce sera donc au candidat tunisien et à son homologue algérien d'aller chercher les suffrages des 54 pays membres. On verra aussi comment se présenteront les autres candidats dans les autres zones ou sous-régions. Et puis, au niveau du Conseil de la FIFA, après la levée de l'obligation de se présenter par zone linguistique, il y a un outsider qui pourrait rafler une des 5 places en jeu. Aux côtés de Fawzi El-Qja et Hani Bourida, qui semblent largement au-dessus du lot, il y a Ahmed Yahya, l'actuel 2e vice-président de la CAF, qui pourrait tenter sa chance et gagner une place dans ce comité de la FIFA, sachant que c'était le seul appui à un moment de Infantino lorsqu'il s'était présenté à la FIFA en 2016. C'était le seul membre avec le Djiboutien Souleymane Wabiri qui avait fait défection à l'unanimité ou à la quasi-unanimité africaine en faveur à l'époque du candidat du Bahreïn. En tout cas, faites vos jeux, rien ne va plus. La campagne démarrera à partir du deadline de dépôt de candidature et l'élection, le verdict, ce sera au Caire le 12 mars 2025.
Alors, Amdimsi, en attendant bien sûr cette élection le 12 mars 2025, est-ce le bilan du Sud-Africain Patrice Motsepe qui parle pour lui ou simplement la résignation des autres?
Je pense que c'est la résignation des autres, hein, parce que le bilan n'est pas tellement fameux. C'est vrai qu'il a fait un peu mieux que le malgache Ahmad Ahmad, mais si on regarde vraiment comment la CAF fonctionne, on a beaucoup de choses à reprocher au nouveau président. D'ailleurs, le fait de ne pas maîtriser le calendrier, ça, c'est un problème. On ne sait plus à quelle date se joue la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui est la grande messe du football continental. Tout ça, on peut reprocher ça à Motsepe, comme on reprochait ça
Amad, du temps de Ayatou, il y avait pas ça. Il manque un président comme Issa Ayatou. Maintenant, comme vous le dites, ils ont manœuvré, ils ont beaucoup manœuvré, ils ont ratissé l'âge pour pouvoir présenter sa candidature. On parlait de Eto'o, avec ses problèmes, il ne peut pas se présenter.